Prix des lecteurs Étrange Lecture, saison 2020-2021. Espagne. Extrait de Où l'on apprend le rôle joué par une épingle à cravate. Juan José Millas. Aux éditions Plomb, Feu croisé. Première partie. Sergio Ocán demandait à Damien Lobo à quel poisson il s'identifiait le plus. Au requin ? À la sardine ? Pas au requin, répondit Lobo. Je n'ai pas son agressivité. J'ai bien trop de scrupules. À la sardine non plus, je ne sais pas. À la murène, peut-être. Pourquoi la murène ? Elle n'a pas l'instinct grégaire. Elle se fond dans le paysage et vit dans des eaux tropicales. Moi, je suis un peu frileux. Sergio Ocán n'existait pas. C'était une construction mentale à laquelle Damien Lobo recourait pour se parler à lui-même. Il lui racontait à travers une interview imaginaire qu'il prolongeait du matin au soir tout ce qui lui arrivait et en général au moment où cela lui arrivait. La rencontre était retransmise à la télévision dans le monde entier, avec une traduction simultanée dans les pays où l'on ne parlait pas espagnol. Dans l'imagination de Lobo, elle avait lieu en direct, en présence du public, dans le studio, et bénéficiait de taux d'audience exceptionnels. Au début, Ocán n'était qu'une voix intérieure, sans visage ni histoire. Mais au fil des années, Damien Lobo l'avait petit à petit doté d'une apparence physique et d'une courte biographie. Vous êtes toujours au chômage depuis que l'entreprise où vous avez travaillé pendant 25 ans vous a licencié sans ménagement, lui avait dit Ocán. Et où je suis entrée à l'âge de 18 ans, précisa Damien. Cela n'a pas dû être facile. Dites-nous, monsieur Lobo, qu'avez-vous donc fait comme étude ? Je suis entrée très jeune dans l'entreprise, en tant qu'apprentie, parce que, aux grandes dames de mon père, j'ai fait une formation professionnelle en électricité et j'étais très habile de mes mains. Je me suis formée sur le terrain en travaillant tous les jours et j'ai eu sous mes ordres de jeunes ingénieurs qui, malgré leurs nombreuses connaissances théoriques, étaient incapables de résoudre des problèmes exigeant des réponses immédiates. Cela dit, quand j'ai commencé, il n'était pas nécessaire d'avoir les diplômes qui sont aujourd'hui requis pour ce poste. Sur ces entrefaites, Damien abandonna l'interview avec Ocán et revint à la réalité. La clientèle du bar, dans lequel il se trouvait, avait entre-temps grossi et se pressait autour de la partie du comptoir la plus éloignée de lui et la plus proche de l'entrée. Il s'imagina de nouveau comme une murène tapie entre les récifs de corail à l'affût d'une proie, ou peut-être se protégeant d'un prédateur. « En quoi consistait votre travail ? » entendit-il Ocán lui demander depuis l'autre dimension. « J'organisais les missions du personnel, distribuais les tâches, supervisais l'état des installations, passais les commandes de matériel et de pièces de rechange, calculais les coûts de réparation, » répondit-il en regagnant précipitamment le plateau. Un travail pluridisciplinaire. Effectivement, et qui requiert un minimum de connaissances dans toutes les branches de l'activité industrielle, maçonnerie, peinture, électricité, plomberie. Sans oublier l'informatique. Je maîtrise très bien Internet. Le bruit du jet de vapeur de la machine à café arracha Damien à sa rêverie télévisée, à laquelle il n'eut pas l'énergie de revenir. Il appela le serveur, paya son thé et sortit du bar pour allumer une cigarette. Il passa alors devant une galerie marchande qui organisait une vente d'antiquités au profit des enfants sans abri. Il y entra pour tuer le temps comme une murène aurait pénétré dans une belle grotte apparue sur son chemin. Il constata que les stands occupaient une grande partie des espaces libres du centre commercial. S'il avait été le responsable de la maintenance de ces installations, se dit-il, il n'aurait pas permis une telle profusion de points de vente qui entravait l'accès aux sorties de secours. Sur les stands improvisés, recouverts de linge de table hors de prix, également en vente, étaient exposées montres anciennes, chaînes, porte-cigarettes, colliers, cadres, bracelets, bagues. Beaucoup d'or, beaucoup d'argent aussi. Ainsi qu'une kyrielle d'objets appartenant à d'autres époques et dont la simple contemplation apaisa l'esprit agité de Damien. Ce fut alors que sur l'un des stands, un objet attira son attention. Une épingle à cravate en or, portant gravé au milieu les initiales S.O. Sergio Ocán, pensa Damien en souriant. Après cette curieuse trouvaille, il continua de déambuler dans la brocante qui avait quelque chose d'un souk huppé, sans prêter attention à ce qui se présentait sur son passage. Son esprit restait obnubilé par l'image de l'épingle à cravate. Damien revint à la réalité, déterminé à prendre possession d'une manière ou d'une autre de l'épingle à cravate. Il se décida pour le larcin, car lorsqu'il revint sur le stand, il n'y avait personne. Les femmes qui le tenaient, deux prédatrices d'un certain âge portant les cheveux crêpés, avaient le dos tourné et étaient en pleine conversation au sujet de l'emplacement le plus approprié pour une carafe en cristal taillée, munie d'un bec verseur en argent. Répondant à Sergio Ocán, Damien Lobo raconta que tout s'était passé de façon à la fois très rapide et très lente. « Ma main est sortie de la poche de mon pantalon et y est retournée, l'épingle à cravate à l'intérieur, comme le mouvement de la langue d'un caméléon pour attraper un papillon. » Après le vol, Damien continua de marcher comme si de rien n'était. Mais si jusque-là tout s'était déroulé dans une dimension où le temps avait perdu ses contours habituels, à peine s'était-il éloigné de quelques mètres que les secondes récupérèrent leur durée normale, tandis que son rythme cardiaque subissait les altérations qu'éprouve toute personne venant de subir un choc. S'il regrettait le larcin, il vit toutefois ses remords atténués par une pointe de vanité. « Marche doucement, se dit-il à lui-même. Ralentis le pas, n'éveille pas les soupçons. » Sur ces entrefaites, sa vision périphérique l'avertit d'un danger. En tournant légèrement la tête, il aperçut un agent de sécurité qui l'avait sans doute surpris et qui le suivait discrètement pour l'aborder, pensa-t-il, lorsqu'ils arriveraient dans un endroit moins fréquenté. Damien descendit les marches 4 à 4 et atteignit un palier. Il poussa violemment et en silence la porte en fer. Elle donnait sur un parking qui avait aussi été transformé en brocante, où l'on vendait surtout des meubles. Tâchant de n'attirer l'attention de personne, il parvint à se cacher derrière une énorme armoire, d'où il vit la porte en fer s'ouvrir de nouveau pour laisser passer l'agent de sécurité. Les mouvements de l'homme, très nerveux, semblaient toujours soumis à un contrôle préconisé par le protocole établi dans des situations de ce genre. Il balaya l'espace du regard, tout en communiquant avec quelqu'un grâce à un micro fixé sur son épaulette. Il se dirigea ensuite vers la gauche, laissant Lobo sur sa droite. En contournant le meuble pour sortir de l'angle de vision de l'agent de sécurité, Damien atteignit le devant de l'armoire, dont il ouvrit la porte du milieu pour s'y faufiler, non sans avoir fugacement vérifié que personne n'avait remarqué sa présence. Plongé dans l'obscurité, Damien retint son souffle, afin que rien ne l'empêchât d'écouter ce qui se déroulait hors du meuble. Il avait si peu d'espoir que son action fût passée inaperçue qu'il attendit le moment ou on lui enjoindrait fatalement de sortir de l'armoire. Mais le temps s'écoula. D'abord les secondes, puis les minutes, sans que ses craintes se réalisent. Sa respiration reprit petit à petit un rythme normal, tandis que ses yeux, qui s'étaient déjà habitués à l'obscurité, commençaient à distinguer, grâce à la lumière filtrant par les interstices, les dimensions colossales de l'antre en bois. Il s'agissait en effet, d'après ce qu'il avait pu constater avant de s'y enfermer, d'une de ces vieilles armoires à trois portes, avec une glace sur celle du milieu. On en avait retiré les étagères, ainsi que les tiroirs. Tout l'espace était diaphane, si toutefois on pouvait utiliser un pareil terme, dans une telle obscurité.